France Bleu, une heure en France. Ségolène Aluni, Simon de Faucompret.
Bonjour à tous et merci de nous retrouver. Vous êtes sur France Bleu, une heure en France, c'est parti. Et à mes côtés, Simon de Faucompré, vous l'aurez compris. Bonjour Simon.
Bonjour, c'est Ségolène Aluni.
Alors on parle d'un coup de pouce aux aidants dans l'actualité.
Ils accompagnent au quotidien un proche malade, handicapé, au prix parfois de leur propre santé ou vie sociale. Un congé indemnisé et d'autres mesures viennent d'être annoncées pour les soulager. On va voir ce qu'ils en pensent.
Et puis nous partirons ensuite sur les routes de France à la découverte tout d'abord d'un lieu connu de tous qui nourrit de nombreux fantasmes. L'hôtel. Nous irons à l'hôtel à Paris pour une exposition qui retrace 200 ans d'histoire de l'hôtellerie. C'est passionnant. Et on va même nous proposer un petit regard vers l'avenir parce que les hôtels s'adaptent au futur. Nous allons également toucher la musique.
Ah,
au sens propre du terme. Si, si, c'est possible, Simon.
Je suis troublé.
Avec des instruments très spéciaux conçus pour les personnes sourdes et malentendantes. Et puis le drapeau breton bientôt sur nos smartphones. Simon, sous forme d'émoticône. Vous savez, les petits dessins qu'on intègre à nos messages.
Absolument.
C'est l'ambition d'une association bretonne, évidemment.
L'hôtel en expo, la musique plus forte que le handicap et une cagnotte en ligne braise ambitieuse.
Ouais.
Je suis désolé, j'étais obligé. Pas de doute,
très
c'est
enfant.
Bien une heure en France.
C'est ça, et vous êtes avec nous jusqu'à 14h. Et on commence tout de suite par les infos de ce mercredi 23 octobre avec Diane Sprimont.
Bonjour Diane.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
Des départements du Sud noyés sous des trompes d'eau.
Et ça concerne surtout pour le moment l'Aveyron, l'Aude et l'Hérault qui sont en vigilance orange, orage, pluie et inondation. 300 litres d'eau par mètre carré sont tombés en 24 heures à Béziers, l'équivalent de 3 mois de pluie. Stéphane Pocher, vous y êtes, la pluie vient de cesser, c'est bien ça ?
Oui, la pluie vient quasiment de cesser à Béziers. Encore une pluie fine, hein, mais rien de comparable avec les trompes d'eau tombées cette nuit ou encore ce matin. Malgré cela, circuler en centre-ville reste très compliqué. De très nombreuses rues sont inondées, les chaussées impraticables. Un habitant nous expliquait tout à l'heure n'avoir jamais vu autant de précipitations depuis son installation dans le Biterrois il y a 14 ans. L'eau descendant du haut de Béziers a emporté de nombreuses pierres sur son trajet. Il y a eu plusieurs éboulements de terrain, mais sans gravité, de très rares dégâts nous ont été signalés. Au sud de la ville, les pompiers interviennent actuellement au sol et par hélicoptère pour évacuer des personnes bloquées à leur domicile. De nombreux automobilistes ont été contraints ce matin d'abandonner tout simplement leur véhicule ayant de l'eau jusqu'à la moitié de la portière. C'est le cas notamment du palais de justice. Pour vous donner une idée de l'intensité des précipitations, la direction de l'entreprise Cameron a invité ses salariés à ne pas venir travailler ce matin. Le fabricant de pièces pour forage pétrolier est l'un des plus gros employeurs de la ville. Un salarié nous expliquait n'avoir jamais connu une telle situation. Par précaution, les 6 centres d'accueil de loisirs de la ville ont été fermés. La mairie a demandé aux parents de garder les enfants. Tout autour de Béziers, il est bien sûr difficile de circuler. Pas bien loin, le canal du Midi a débordé à Villeneuve-les-Béziers. Les autorités surveillent maintenant attentivement le niveau du fleuve l'Orbe.
Merci Stéphane Pocher en direct de Béziers dans l'Hérault, département qui fait partie des 9 départements en vigilance orange, orage puis inondation. Et parmi eux, on retrouve l'Aude, les Pyrénées-Orientales, les Bouches-du-Rhône ou encore le Var. L'homme retranché dans un musée à Saint-Raphaël, interpellé, c'était tôt ce matin, il a condamné l'accès à l'intérieur du musée archéologique. Cet homme serait entré par effraction cette nuit, seul et sans armes. Il a été arrêté sans résistance, sans violence un peu après 11h. Les enquêteurs, eux, refusent de parler de terrorisme pour le moment. Ils privilégient la piste d'une personne déséquilibrée. 2 mois et demi de procès pour les attentats de 2015. On a maintenant les dates officielles. Un dossier hors norme qui sera épluché du 4 mai au 10 juillet 2019. Un procès qui concernera les attaques de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher. 14 suspects seront entendus devant une cour d'assises spéciale. L'enquête de l'attaque de la préfecture de Paris confiée à des juges d'instruction. Ça s'est passé début octobre. Un employé a tué 4 de ses collègues. Il faut maintenant comprendre pourquoi. S'il s'agit d'un coup de folie, s'il y a des complices ou un lien avec le djihadisme.
39 corps ont été découverts dans un camion près de Londres.
Une découverte de la police britannique cette nuit dans une zone industrielle à l'est de la capitale. Le véhicule venait de Bulgarie. Il est entré au Royaume-Uni samedi dernier, Haute Sophie.
Les corps étaient à l'intérieur d'un camion garé dans une zone industrielle à Grays, dans l'Essex, à un peu plus d'une trentaine de kilomètres à l'est de Londres. 38 adultes et un adolescent trouvés sans vie. La police a été appelée par les services d'ambulance juste avant 1h40 ce matin et a immédiatement commencé son enquête. Mais le processus d'identification des victimes pourrait prendre du temps. Le poids lourd était immatriculé en Bulgarie et serait entré au Royaume-Uni samedi à Holyhead, au Pays de Galles, où arrive la majorité des ferries en provenance d'Irlande. Le chauffeur du camion, un Britannique de 25 ans, originaire d'Irlande du Nord, a été arrêté dans cette enquête pour meurtre et placé en garde à vue. Un cordon de sécurité a été installé tout autour de la zone pour permettre le travail des enquêteurs.
Et vous pouvez retrouver toutes les infos sur cette affaire sur francebleu.fr. Ça y est, la dépollution du site Lubrizol à Rouen commence, prévue hier à la base, mais au final les 160 fûts de 200 kilos seront neutralisés à partir d'aujourd'hui. Il contiendrait un gaz très nauséabond, c'est un robot qui est aux commandes pour les évacuer. Ils seront ensuite incinérés à 80 kilomètres de là.
Des annonces du gouvernement ce matin en soutien aux aidants.
Et ce sont ces 10 millions de Français qui s'occupent d'un proche malade ou dépendant, peut-être vous en faites partie. Des mesures devraient s'appliquer dès 2020 jusqu'en 2022, un soutien financier de 43 euros par jour ou encore la création d'une plateforme pour que leurs proches trouvent un accueil temporaire, histoire que les aidants puissent souffler pendant un week-end.
Alors comment réagissent les premiers intéressés à ces annonces? On va voir ça après vos infos. Diane, Florence Leduc, présidente de l'Association française des aidants, est l'invitée du Nord en France dans quelques instants.
Et du foot ce soir, quatrième journée des phases de groupe de Ligue des Champions, les Lillois rencontrent les Espagnols de Valence et après deux défaites en deux matchs, les nordistes du Loc n'ont pas le droit à l'erreur et Lyon se déplace au Portugal. Coup d'envoi des deux matchs à 21h. Le point sur la météo avec cette perturbation qui se déplace d'ouest en est, avec des fortes pluies orageuses en Languedoc-Roussillon. Elle remonte sur la Provence avec des vents à 100 km/h. Ça va un peu mieux dans le Tarn, mais il pleut encore à l'est du département et des orages qui continuent de se former dans le golfe du Lion et ils se dirigent encore vers l'Hérault.
13 degrés sur les côtes bretonnes, on va y faire un tour avant 14h pour rencontrer ceux qui veulent implanter le drapeau breton directement dans nos téléphones portables. 15 degrés à Lisieux, 16 à Dijon, 17 à Foix, 21 à Toulon et 25 à Ajaccio. Bonne journée, Diane Sprimont.
Bonne journée.
On parle proche aidant dans une minute.
FranceBleu.fr. Toutes les infos pratiques de France Bleu, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur francebleu.fr.
France Bleu Paris, info, trafic et mobilité en temps réel. Manon Vautier-Cholet.
Le point sur les routes d'Île-de-France est en ce moment 78 km de bouchons cumulés selon notre compteur, avec toujours cet accident sur la 86 extérieure au niveau du tunnel d'Antony. Une moto est concernée. Il y a une vingtaine de minutes de ralentissement en amont de cet accident. Notre patrouilleur Joël, lui, nous signalait il y a un peu plus d'une heure deux piétons sur la 6 au niveau de la pyramide de Brunois. Soyez prudents dans ce secteur. Et puis du côté des transports en commun, le trafic reste très perturbé sur le RERC après plusieurs incidents dans la matinée, même si ça roule sur toute la ligne. Trafic compliqué aussi sur la ligne H du Transilien après un problème technique.
Le gouvernement tend la main aux aidants. Il y en a jusqu'à 11 millions en France. Vous en faites peut-être partie si vous accompagnez au quotidien un proche malade, âgé, atteint de handicap. Et c'est parfois très fatigant, surtout quand on travaille à côté. Un plan de soutien a été présenté tout à l'heure et on en parle avec vous, Florence Leduc. Bonjour.
Bonjour.
Présidente de l'Association française des aidants. On a déjà parlé sur France Bleu d'un nouveau congé indemnisé pour les aidants entre 43 et 52 euros par jour pendant 3 mois. C'est confirmé. Comment vous l'accueillez, cette mesure?
Alors, on accueille cette mesure, bien évidemment, avec plaisir, puisqu'il existait déjà un congé. Mais comme il n'était pas indemnisé, les gens disaient, je fais comment pour prendre des jours si je ne suis pas rémunérée? Et donc, c'était un frein à la prise de ces jours de congé dont les aidants ont souvent besoin pour pallier à une situation d'urgence, pour accompagner quelqu'un à l'hôpital, etc. Donc, c'est plutôt un bon signe qu'il ait été proposé d'indemniser ce congé avec toute la variété des situations. Il y a des situations dans lesquelles ce congé, évidemment, il est réservé aux gens qui sont en activité professionnelle. Eh bien, il va falloir, pour la mise en place de ce congé, travailler dans une entreprise, demander à pouvoir partir, mais aussi à cette rémunération permet de dire j'ai une situation grave, ça m'arrive souvent, j'ai une situation plus légère, de temps en temps me suffit. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des dispositifs qui sont présentés, mais aucun aidant ne ressemble à un autre. Et c'est la question qui va se poser, c'est de la bonne utilisation à un moment donné des dispositifs qui vont vraiment soulager les gens.
Les aidants qui travaillent, on les estime à peu près 4 millions en France, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça.
D'accord. 17 mesures en tout à concrétiser d'ici 2 ans, a dit le gouvernement. On parle d'un budget de 105 millions d'euros, de 200 000 solutions de répit. C'est bien joli, mais qu'est-ce que ça va changer concrètement pour vous? Je pensais par exemple à la première mesure, un numéro téléphonique national. Ça va bien changer les choses pour vous peut-être?
Alors, pour nous pas forcément, mais ce qui est important, c'est de faire des mesures choc pour que tous les aidants qui écoutent la radio, regardent la télévision, lisent la presse, sachent qu'ils existent, qu'ils sont nommés, puisqu'il y a beaucoup d'aidants qui ne savent pas qu'ils sont des aidants. Ils font au quotidien ce qu'ils appellent le normal, le naturel. Et c'est pour qu'également, ils souffrent, les aidants, dans leur grande majorité, disent qu'ils souffrent d'un manque d'information. C'est de dire, fléchons un endroit, et ensuite, on verra bien comment ça peut se mettre en place sur les territoires.
Aidant, ça doit être un statut, du coup, peut-être quelque chose d'un petit peu plus institutionnel.
Un statut, c'est des avantages et des inconvénients, c'est des droits et des obligations. Aujourd'hui, il y a des droits pour les aidants, il faut mieux les identifier, mieux les harmoniser, parce qu'il y en a un petit peu partout. Sur la question de la contrepartie, c'est le contrôle, donc il faut bien réfléchir à savoir si on veut un statut ou pas, ça doit être ouvert en tout cas.
Dans une étude il y a 3 ans, vous expliquiez avec l'association donc que vous présidez qu'un aidant sur deux finissait par avoir des problèmes de santé. C'est souvent le temps pour soi qui finit par manquer du coup quand on s'occupe de l'autre.
Le problème de santé, là, c'est une grande majorité des aidants disent qu'ils ont des problèmes de santé depuis qu'ils sont devenus aidants. Et quand on identifie les raisons pour lesquelles ils ont des problèmes de santé, eh bien, obligatoirement, il y a le sens de la responsabilité, il y a du stress, il y a du sentiment de responsabilité, il y a le temps qu'on n'a plus pour soi, pour sa vie. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est suffisamment problématique pour qu'il puisse y avoir des mesures. Alors, il y en a qui existent déjà, mais tout le problème, c'est qu'elles ne sont pas connues. Donc aujourd'hui, c'est de mettre à la connaissance de tout le monde, et peut-être que ces numéros de téléphone uniques y parviendront, les dispositifs qui existent déjà, pour qu'on ne dise pas qu'il n'existe rien alors que ça existe, mais qu'aujourd'hui, il y a trop de choses qui sont méconnues. J'espère que le plan, avec le travail que les associations fournissent pour mettre en visibilité ces questions, va permettre au plus grand nombre de gens concernés de pouvoir accéder à ce qui les concerne.
Florence Leduc, présidente de l'Association française des aidants, après l'annonce par le gouvernement de 17 mesures d'accompagnement, notamment financier, mais aussi, on vient de le dire, sur un accompagnement donc de contact. Merci à vous.
Merci.
Merci d'avoir été avec nous dans Une Heure en France. J'ajoute que ce plan doit être mis sur pied d'ici 2 ans. Bonne journée.
France Bleu, Une Heure en France. Ségolène Aluni, Simon de Faucompret.
Et bon appétit à vous tous qui nous écoutez. Bah oui, 13h12, on
si
mange là encore.
Table.
Bah oui, vous êtes certainement à table, ou alors bon café, hein, puisque on est peut-être en phase de digestion. Bref, merci de nous rejoindre sur France Bleu. Vous êtes aussi peut-être en vacances, et il vous arrive pendant les vacances de réserver des nuits à l'hôtel. Alors on a choisi de retracer l'histoire de l'hôtellerie à Paris.
Une histoire qui a commencé il y a 200 ans. Au départ, c'était les auberges, mais avec l'arrivée des premiers touristes britanniques, l'hôtellerie a commencé à se développer.
Et puis nous prendrons la route du sud, sous le soleil de Provence, avec une jeune femme de 25 ans qui a inventé des instruments de musique pour les personnes malentendantes.
Oui, elle s'appelle Cassandra Felgueras. Elle n'est pas musicienne en tant que telle, mais elle a créé un violon, une basse et un violoncelle uniques en leur genre pour permettre aux personnes sourdes ou malentendantes de jouer de la musique, et le résultat est franchement bluffant.
Et puis, ouais, c'est vrai, nous terminerons près de l'océan sous le drapeau breton. Vous savez comment il s'appelle ce drapeau?
Non, vous allez
il a
me
un
dire.
Petit nom, Gwenadu. Voilà. Et les Bretons ont un grand amour pour leur culture et leur drapeau. Et donc aujourd'hui, nous accueillons une association bretonne qui se bat, tenez-vous bien, pour que le drapeau obtienne son émoticône dans nos téléphones portables et sur nos réseaux sociaux.
Et pourquoi pas, on pourra envoyer plein de drapeaux bretons comme ça à nos amis.
On pourra, on va demander vraiment à quoi ça va servir.
Si ça se fait.
Deux histoires passionnantes à vivre ce midi dans Une Heure en France. Très belle journée à tous. Et pour entamer le voyage, quoi de mieux que de la musique? Voici à monter le son. Hein. Alan Parsons Project, bienvenue sur France Bleu.
Say
Sky avec Alan Parsons Project et nous avons Simon de Foucompré qui dodeline de la tête sur ce titre, bien, comme vous, peut-être, vous êtes sur France Bleu. Et d'ailleurs, c'est un titre que vous pouvez retrouver le soir sur France Bleu du lundi au vendredi dans notre programmation spéciale Collector. Rendez-vous entre 22h30 et 1h du matin.
Une heure en France, Simon de Foucompré, Ségolène Aluny sur France Bleu.
Notre mission chaque jour entre 13h et 14h, vous emmener au cœur de nos régions pour vous faire découvrir les initiatives citoyennes. Et notre voyage commence au cœur de la capitale, Simon, direction Paris pour un voyage. Ouais, c'est bon. Un voyage dans le temps, à travers des lieux de fantasmes, des lieux de transition, puisque nos passages y sont éphémères à chaque fois. Nous allons à l'hôtel ce midi.
Oui, alors pas de confusion, tout ça est très très sérieux.
Ah bah oui, quoi.
Le pavillon de l'Arsenal, centre d'urbanisme et d'architecture de Paris, organise une grande exposition consacrée à l'histoire de l'hôtellerie parisienne. Voilà, maintenant vous savez tout.
Voilà, alors très sérieux, mais on va quand même s'amuser puisque cette exposition est passionnante. Hôtel Métropole depuis 1818, c'est le nom de cette expo dont la commissaire est en ligne avec nous, Catherine Sabat. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Bonjour, co-commissaire avec Olivier Navias qui est... qui a également travaillé sur l'exposition.
Ah bah merci de le citer, on le salue. C'est une exposition qui retrace l'histoire de l'hôtellerie donc dans Paris, mais pas uniquement l'hôtellerie de luxe, comme on serait tenté de l'en penser. Ça va de l'hôtel Meurice jusqu'au Formule 1, Catherine.
Oui, alors l'hôtel, c'est un concept urbain qui a commencé avec des auberges très très rudimentaires qui étaient juste un restaurant et puis des chambres au-dessus. Et jusqu'à l'invention de l'hôtel moderne, tel qu'on l'a défini aujourd'hui, qui est un hébergement cette fois plus grand et qui fournit aussi des services. Et là, on identifie la date de naissance de l'hôtel avec le Meurice en 1818 qui était créé par quelqu'un qui faisait qui faisait le relais de poste entre Calais et la capitale pour amener les Anglais en villégiature.
D'accord. Alors aujourd'hui, l'hôtel est vraiment enraciné dans le paysage urbain, hein, comme vous dites, on en croise dans toutes les rues ou presque. Mais au début du 19e siècle, du coup, il n'y en avait pas beaucoup. Il y a eu le Meurice et après, ça a commencé à émerger de manière assez vive ou ça a mis du temps ?
Alors ça a commencé à émerger assez fortement au moment des expositions universelles parce qu'il fallait accueillir toujours des Britanniques pour la plupart en villégiature qui avaient des souhaits assez des standards assez élevés en termes d'hygiène, en termes de confort, en termes de chic parisien aussi qu'ils voulaient trouver dans la capitale française. Et finalement sur le modèle de grands hôtels américains sont nés ces grands hôtels français qu'on appelait d'ailleurs des grands hôtels et qui occupaient parfois tout un îlot haussmannien, donc vous voyez à peu près la taille, c'est très grand.
Ah oui.
On avait des bâtiments qui faisaient jusqu'à 700-800 chambres à l'époque, ce qui était énorme, même ce qui est toujours très grand par rapport à la capacité des hôtels aujourd'hui.
Alors Paris, Catherine, c'est quand même assez énorme en termes d'hôtels. 2053, c'est autant que Londres et New York réunis.
Non, pas réunis, chacun. Donc Paris, donc le Grand Paris en l'occurrence, parce qu'on raisonne à trois échelles, on raisonne à l'échelle de Paris, de la métropole et de la région. Le Grand Paris, c'est donc la métropole, c'est 2000 hôtels, à peu près, enfin 2053 exactement, 120 000 chambres, ce qui place effectivement aux côtés de New York et de Londres. Si on raisonne à l'échelle de la région, là on atteint la capacité de Las Vegas avec 150 000 chambres. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'hôtels en région parisienne et dans la métropole, ils sont extrêmement concentrés dans Paris, dans le 8e et dans le 9e arrondissement qui en compte le plus. Et on a plus de chambres d'hôtels dans Paris intramuros que dans toute l'île de France.
Ça, c'est dingue. Alors, l'exposition, on va y revenir, hein, Hôtel Métropole, c'est une expo qui se compose de photos, mais aussi de reconstitutions de chambres ou de halls d'hôtels. Est-ce que vous pouvez nous en décrire quelques-uns pour qu'on se fasse une idée un peu plus précise, Catherine ?
Alors, c'est pas des reconstitutions, c'est presque des prototypes plutôt prospectifs, parce qu'on a demandé à des architectes et des designers de réfléchir à la question de l'hôtel à une époque où le tourisme rencontre une question très importante qui est celle du développement durable, de l'empreinte carbone, des économies de consommation d'énergie et d'eau. Et donc, on a demandé à des designers et architectes de dessiner la chambre qui pourrait être celle du futur. Donc, on a Lina Gottsme qui a dessiné une chambre qu'elle appelle une chambre capable, dans laquelle toutes les fonctions sont situées dans des sortes d'alcôves, si bien que quand elles sont fermées, on a un volume qui peut servir à toute autre chose qu'une chambre d'hôtel sans qu'on ait à pousser les meubles. On a une autre chambre avec une salle de bain qui fonctionne avec de l'eau qui se recycle en permanence grâce à un circuit qui récupère l'eau, qui la fait traverser un système de plantes, qui la filtre, qui fait passer par des charbons actifs et qui, comme ça, peut permettre d'économiser énormément d'eau. Il faut savoir qu'une nuitée dans un 3-4 étoiles, c'est 300 litres d'eau. Alors à la fois la douche, mais à la fois aussi toute l'eau qui est utilisée pour un client, pour laver ses draps, pour lui donner à boire, pour équiper la cuisine, etc.
On peut découvrir donc cet hôtel du futur, en tout cas ce à quoi il pourrait ressembler donc dans votre expo passionnante.
L'hôtel Métropole, depuis 1818, c'est à découvrir jusqu'au 12 janvier prochain et c'est donc au pavillon de l'Arsenal dans le 4e arrondissement. Merci beaucoup Catherine Sabat d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la co-commissaire de l'exposition.
Bonne journée.
À bientôt Catherine. Merci d'avoir été avec nous dans Une Heure
en
France.
Merci beaucoup, au revoir.
Alors, est-ce que vous avez bien suivi? Tenez, c'est les vacances, on va réviser. Cahier de vacances, sortez-le. À destination de quels touristes ont été construits les premiers hôtels parisiens, hein, au début du 19e siècle? À gagner, parce qu'aujourd'hui, c'est mercredi, jour de sortie. Deux invitations pour aller au cinéma, découvrir le nouveau film France Bleu, Les Municipaux, Trop c'est Trop. C'est le nouveau film des Chevaliers du Fiel. Vous pouvez aller le voir dans n'importe quel cinéma en France. Est-ce les touristes britanniques ou américains, donc, qui ont fait émerger l'hôtellerie en France et à Paris? 0810 055 056 pour donner la réponse. Chut, Simon, taisez-vous, parce que vous étiez prêt à la donner.
Oui, voilà. Je dis rien.
C'est à nos auditeurs de jouer pour gagner des places de cinéma.
Bonne chance.
À tout de suite.
I understood loneliness before I knew what it was. Saw the pills on your table for your unrequited love. I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. Both of us, both of us, both of us. I am a giant. Stand up on my shoulders. Tell me what you see. Cause I am a giant. We'll be breaking boulders underneath our feet.
Living is togetherness. up on my shoulders. Tell me what you see. Cause I am a giant. We'll be breaking borders underneath our feet.
Under me, yeah, I'm gonna shake all the weight in the dirt. Under me, yeah, I'm gonna shake all the weight in the dirt. Yeah, I'm gonna shake all the weight in the dirt. Yeah, I'm gonna shake all the weight in the dirt. Yeah, I'm gonna shake all the weight in the dirt.
C'est le tube de cette rentrée. Calvin Harris, Ragan Bonneman, on adore Giant sur France Bleu et c'est une nouveauté. Il est bientôt 13h30. Simon, c'est l'heure de jouer.
Jouons.
On était à Paris avec l'histoire de l'hôtellerie parisienne. On y reste. Bonjour Romain.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que ça vous a un peu passionné, là, cette histoire de l'hôtellerie parisienne? Moi, je trouve ça fascinant.
Effectivement, c'est très intéressant à savoir. On connaît pas tout, forcément. Moi, je suis pas d'origine parisienne, mais j'y vis depuis 5 ans. J'y travaille depuis 5 ans et j'apprécie effectivement vous écouter et
on est ravis.
Transmettre un petit peu d'historique.
Romain, alors justement, au début du 19e siècle, c'est là qu'ont émergé les premiers hôtels parisiens. Mais pour quels touristes étaient-ils à destination à la base?
Alors, c'est des touristes britanniques.
Eh oui, merci. Bien les vu. Britanniques hein, pour merci l'hôtel Le Meurice.
Vous avez déjà fait un tour au Meurice, Romain?
Oula.
En 5 ans à Paris?
J'ai pas eu l'occasion encore, mais...
Écoutez, ça dépend de votre budget, parce que je crois que la chambre, le soir, c'est quelques milliers d'euros. Donc, on va se calmer.
Je vais attendre un petit peu, alors.
Un petit investissement. En attendant, Romain, c'est cadeau. On vous offre 2 invitations pour le film Les Municipaux, trop c'est trop. Vous y allez quand vous voulez, dans le cinéma, que vous voulez. C'est pour vous, Romain.
Eh ben, c'est super. Je vous remercie beaucoup. C'est très gentil. Merci, France Bleu.
Merci d'être passé nous voir.
Merci.
À bientôt sur France Bleu.
France Bleu aime le cinéma.
C'est beau tous ces municipaux.
À Port-Vendres, une menace plane sur les employés municipaux.
Il va falloir commencer à écrémer.
Mais ils ont bien l'intention de ne pas se laisser faire.
La révolte gronde.
Ouais. La lutte se prépare.
Les municipaux, trop c'est trop, actuellement au cinéma.
Je vous propose la grève du zèle. Travailler tout le temps, en sur-régime.
Un film des Chevaliers du Fiel.
Cette mesure mérite réflexion.
Les émissions et la bande-annonce sur francebleu.fr.
Un message d'Agathe Le Caron.
Quand on est maman et qu'on anime la maison des maternelles, forcément, on a envie de se mobiliser et de protéger les générations futures. Moi, Agathe, je recycle. J'ai commencé avec les produits de première nécessité, comme mon frigo. On ne réalise pas que notre vieux frigo contient des gaz qui ont 10 000 fois plus d'impact sur le climat que le CO2. Alors autant le dépolluer en France. Aucune excuse acceptée. Maintenant, c'est à vous d'agir. Plus d'informations sur écosystème.eco.
Écosystème, recycler, c'est protéger.
C'est parti pour le script Direct Assurance. Alors, la publicité Direct Assurance montre un conseiller qui prend un appel pendant qu'il se fait attaquer par un monstre. Non, il se fait emporter par une tornade. Pas terrible. Bon, eh bien, la publicité Direct Assurance ne montre rien du tout, puisque tout ce que nous avons à dire, c'est que nos conseillers font toujours tout leur possible pour vous aider, et c'est pour ça que Direct Assurance est élu service client de l'année 2020. Rendez-vous sur directassurance.fr, le slogan « On gagne toujours à être direct » et le jingle « Ta-ta-ta-da-da ». Catégorie assurance de biens, étude BVA Group, visée au CI, mai à juillet 2019, plus d'infos sur escda.fr.
francebleu.fr. Toute la musique de France Bleu, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
tout France Bleu et sur francebleu.fr.
France Bleu Paris, info, trafic et mobilité en temps réel. Manon Vautier-Cholet.
Le point sur les routes d'Île-de-France avec en ce moment 66 km de bouchons en région parisienne. Un accident qui vient d'être dégagé à l'instant sur la 86 extérieure au niveau du tunnel d'Antoly. Une moto était concernée. Il y a toujours en revanche une vingtaine de minutes de ralentissement en amont des lieux de cet accident. Ça coince toujours aussi sur la 86 dans les deux sens entre Rosny-sous-Bois et Nogent-sur-Marne, comptez un quart d'heure de route. Du côté des transports en commun, le trafic reste très perturbé sur le RERC après plusieurs incidents dans la matinée, même si ça roule bien sur toute la ligne. Et puis, trafic compliqué aussi sur le RERA après un accident grave de personnes.
Bienvenue dans Une heure en France, dans un instant direction le sud, en caravane avec Raphaël.
J'en ai les larmes aux yeux, que nos mains ne tiennent plus ensemble. Moi aussi je tremble un peu, puisque je ne vais plus attendre. Est-ce qu'on va reprendre la route? Est-ce que nous sommes proches de la nuit? Est-ce que ce monde a le vertige? Est-ce qu'on sera un jour puni? Est-ce que je rampe comme un enfant? Est-ce que je n'ai plus de chemise? C'est le bon Dieu qui nous fait, c'est le bon Dieu qui nous brise. Est-ce que rien ne peut arriver, puisqu'il faut qu'il y ait une justice? Je suis né dans cette caravane. Partons, allez, viens. Bientôt mes os seront dans le vent. Je suis né dans cette caravane. Et nous partons, allez, viens.
Simon, c'était bien ce
voyage
en caravane, ben ouais, qui nous emmène au sud de la France. Nous étions à Paris il y a quelques instants. Raphaël nous emmène à La Ciotat. Et oui, nous sommes en Provence.
Une heure en France. Simon de Fauconpré, Ségolène Aluni sur France Bleu.
Pour parler musique, une heure en France nous emmène maintenant à la rencontre d'une artiste sonore.
Ouais. Une artiste qui a créé trois instruments de musique, vraiment pas comme les autres. On entend un extrait à base de ces instruments. Essayez de deviner quel est cet extrait sonore. Écoutez bien la musique. Bon, vous aurez reconnu une reprise de Nina Simone, « My baby just cares for me ». A priori, rien de particulier,
non.
Sauf que...
Il n'y a pas de, en termes d'instruments, j'ai rien remarqué de spécial, mais effectivement, il y a un petit quelque chose.
Bah oui, parce que la voix est un petit peu lointaine. En fait, l'instrument de la basse est joué par une femme qui est totalement sourde.
Oui.
Elle peut sortir du silence, rejouer de la musique grâce à un instrument unique, Simon.
C'est vous qui l'avez confectionné pendant vos études d'expression plastique. Cassandra Felgueras, bonjour.
Bonjour.
Une basse en acier pour toucher la musique, entre guillemets. Alors expliquez-nous comment ça marche.
Alors je vais vous donner une explication un petit peu technique, mais vous allez comprendre.
Okay.
Alors les propriétés sensibles, tactiles et auditives du son permettent une double appréciation. Et c'est sur ces principes que j'ai imaginé cette basse. Mmh. L'acier utilisé pour la construire est une matière adéquate parce qu'il est à la fois plastique et élastique. Plastique, c'est-à-dire que si on exerce une force sur lui qui dépasse son seuil d'élasticité, on peut le modeler, lui faire prendre la forme que l'on désire. Et élastique, si on ne dépasse pas ce seuil, il ne fait que vibrer et reprend sa forme initiale. C'est ce qui m'a permis de créer une structure à l'instrument qui vient prendre le corps pour en faire sa caisse de résonance.
D'accord, ça touche le corps donc.
Voilà, et les cordes tendues sur cette structure, lorsqu'elles sont jouées, la font vibrer sans déformation définitive. Et apposée sur le corps de manière stratégique, la basse vibrante conduit le son et nous transmet des informations tactiles.
Mais physiquement, l'instrument ressemble à un instrument de musique classique ou rien à voir ?
Alors, pour parler de la basse, elle reprend les codes de lutherie d'une basse traditionnelle. On a le même rapport qu'avec une basse commune. Et on peut jouer les mêmes choses. C'est simplement l'armature qui prend le corps, qui épouse la forme du corps.
Donc, si, pour bien expliquer, quand on joue d'un instrument, de cet instrument que vous avez créé, cette body bass, il se passe des choses dans le corps, ça vibre en fait.
Et oui, il y a une conduction qui se fait des vibrations qui est osseuse et cutanée à travers les tissus.
Comment vous avez eu cette idée, Cassandra ?
Alors c'est une idée qui découle des recherches que j'ai menées au Beaux-Arts quand j'étais étudiante. Oui. Je travaillais sur des problématiques autour du son, de l'espace et du corps. Et j'ai imaginé deux instruments de musique expérimentaux inspirés du violon et du violoncelle qui prenaient le corps comme caisse de résonance. Mmh. Et cette organisation a perturbé et modifié la relation du musicien avec son instrument.
Oui.
Mais... après plusieurs performances, j'ai vu à travers ce principe de double appréciation du son l'occasion de répondre à une des problématiques de la surdité et j'ai alors construit cette basse.
Alors, on a entendu tout à l'heure justement un extrait de la démonstration de cet instrument par une jeune femme qui s'appelle Lily, qui est malentendante mais qui ne l'a pas toujours été. Pour elle, ça a été une vraie révélation, la création de vos instruments, Cassandra.
Oui, concrètement, elle a retrouvé quelque chose qu'elle avait perdu pendant des années.
Parce que c'était une musicienne, hein, à la base.
Elle a joué de la guitare étant jeune.
Ouais.
Et c'est elle qui joue donc de cette basse. Cette... Vous en avez fait de votre body basse pour voir ?
Bah oui, évidemment.
Alors, une basse comme celle-ci, ça demande combien de temps et combien de budget rapidement ?
Pour faire un instrument, je dirais un mois.
Mmh. Et vous allez le commercialiser après, ça va pouvoir se vendre quelque part.
À terme, c'est l'objectif, c'est de le rendre accessible au plus grand nombre et que chacun puisse s'y essayer.
En tout cas, c'est une superbe initiative, un projet magnifique. Merci beaucoup Cassandra Felgueras d'avoir été avec nous, créatrice de ces instruments pour personnes sourdes et malentendantes.
Récompensée pour ça par un concours de la Fondation de France le mois dernier, quand même, bravo. Ouais.
C'était au concours Déclic Jeune, effectivement, qui encourage les projets. Merci, bravo à vous et merci encore d'être venu dans Une Heure en France. Tiens, on a encore des invitations à vous offrir pour aller au cinéma découvrir le nouveau film France Bleu, Les Municipaux, trop, c'est trop. Ça vient de sortir aujourd'hui et bien évidemment on serait ravis que vous y alliez avec la personne de votre choix. Alors pour ça, on va voir si vous avez bien écouté ce que nous venons de raconter avec Cassandra. En quelle matière sont les instruments de musique pensés et créés par Cassandra ? Une matière spéciale pour qu'ils puissent faire caisse de résonance dans le corps de celui qui l'utilise. Ces instruments sont-ils composés de cuir ou d'acier ? 0810 055 056 pour nous donner votre réponse.
On l'a dit.
À gagner. Oui, on l'a dit. Le film Les Municipaux, trop, c'est trop. Deux invitations pour la séance, la salle de votre choix partout en France. On se retrouve donc juste après Jermaine Jackson, le temps de la réflexion. When the rain began to fall, ce qu'on n'espère pas, évidemment. Belle après-midi sur France Bleu.
When the rain began to fall avec Jermaine Jackson sur France Bleu. Comment ça, ça vous a réveillé? Vous dormiez?
Non, hop mais là
hop. Bah oui.
Ça met un coup de jus.
Allez, direction les Pyrénées-Atlantiques. Un autre coup de jus pour vous, Simon, puisque là, on va devoir se projeter très rapidement là-bas. Nous sommes chez Cyril. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Cyril, vous avez entendu ce projet absolument dingue d'instruments de musique pensé, créé pour les personnes sourdes et malentendantes. Est-ce que vous vous souvenez de la matière dans laquelle ils sont construits?
De l'acier.
De l'acier, c'est votre gagné. Dernier mot?
Oui.
C'est... Ah, moi, j'ai tué le suspense.
Il a complètement...
C'est gagné, bravo.
Aucun sens bravo, du suspense, Cyril. Simon. Effectivement, en acier pour que le corps puisse servir de caisse de résonance en touchant donc cet instrument. Je vous invite vraiment à aller découvrir ce que c'est. Cassandra Felgueras a été la créatrice de ces instruments. Cyril, on vous envoie des invitations, non pas pour aller jouer de la musique, mais pour aller au cinéma découvrir notre nouveau film.
Mais c'est gentil, merci beaucoup.
Les municipaux, trop c'est trop.
Par nos compères France Bleu, donc nos humoristes France Bleu, les Chevaliers du Fiel.
Voilà. C'est pour vous, Cyril.
Okay. Merci bien, c'est gentil à vous.
Bel après-midi dans les Pyrénées-Atlantiques.
Merci. Merci à vous aussi, au revoir.
À bientôt, Cyril. Et dans un instant, eh bien, on va encore faire quelques kilomètres, Simon, puisque nous irons en Bretagne.
Ah oui, on est là pour ça.
À tout de suite après Lorraine Daigle. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Remind me once again just who I am, because I need to know. Avec, non pas Adèle, Simon.
Non, un petit air d'Adèle.
Il a confondu Lorraine Daigle et Adèle. Mais c'est vrai que la tessiture de voix est quand même très remarquable et ressemblable.
Et
j'avoue, moi aussi. Et le style, moi aussi. Vous êtes bien sur France Bleu et on continue notre tour de France. C'est une heure en France qui nous emmène en Bretagne.
Une heure en France, Simon de Faucompré, Ségolène Aluny sur France Bleu.
Direction la Bretagne qui nous emmène au cœur de nos téléphones portables,
ça
Simon.
Ça nous gagne.
Vous... Non, il est... Ah oui, ouais, j'étais sûre que vous allez la
sur
faire.
Sur la Bretagne, je suis...
Bon, vous vous visualisez ce que sont les émoticônes.
Absolument.
Ok, les smileys, par exemple, pour vous donner un exemple, sont des émoticônes, mais aujourd'hui, c'est très développé. On a des émoticônes d'objets, de plantes, d'animaux, d'humains, et même de drapeaux du monde entier. Mais il n'existe pas encore de drapeau breton.
Et forcément, on ne trouve aucun drapeau régional dans nos portables. Sauf qu'une association bretonne travaille activement sur le sujet. Elle vient de lancer une plateforme de financement participatif en ligne pour que le projet aboutisse.
Et qu'on puisse avoir des émoticônes du drapeau breton sur nos portables. Et pour en parler avec nous, le chef de projet et membre de l'association BZH.com, Loïs Philly. Bonjour Loïs.
Bonjour à tous.
Alors déjà, pardon, mais pourquoi ? Comment vous est venue l'idée de réclamer un drapeau breton, Loïs ?
En fait, c'est tout simplement parti, enfin, c'est le président de l'association Point BZH, David Lesguenan, qui a eu l'idée du coup d'essayer de faire éclore cette émoji drapeau breton. Et tout ça est parti en fait d'un concours en ligne en fait lancé par une organisation internationale et concours qui s'appelle le World Emoji Awards et qui avait pour but en fait de mettre en avant les emojis les plus demandés à l'échelle mondiale. Et donc David Lesguenan et l'association Point BZH ont essayé en fait de mobiliser bretons et amoureux de la Bretagne autour de cette emoji là, donc c'était en 2017. Et puis à l'époque du coup l'emoji drapeau breton est arrivé en seconde position du coup des emojis les plus demandés à l'échelle mondiale.
Et ça, c'est pas étonnant. En fait, effectivement, le drapeau breton, il est présent dans les manifestations, les rassemblements. On en a vu un à la Coupe du Monde de foot l'an dernier, en plein milieu des supporters brésiliens.
Tout à fait, il y en a partout, enfin dans tous les événements d'envergure internationale, c'est vrai qu'on trouve des drapeaux bretons, il en manque en effet juste à l'heure actuelle sur nos claviers et dans nos smartphones, c'est vrai.
Alors, comment ça se passe pour déposer un émoticône ? Faut contacter qui ?
En fait, tout se passe avec les États-Unis. En fait, il faut envoyer un dossier de candidature auprès d'une instance qui s'appelle le Consortium Unicode. Donc, c'est une instance donc états-unienne et qui est composée de représentants des grandes plateformes et logiciels qui diffusent les emojis. Donc, on y trouve en fait concrètement des représentants de chez Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc. Et donc, eux, ils déterminent en fait annuellement les nouveaux emojis qu'on voit apparaître sur nos smartphones. Et donc, il faut envoyer un dossier de candidature auprès de cette instance-là et leur prouver en fait que l'emoji en fait sera utilisé, qu'il y a une vraie demande, etc.
Mais justement, j'aimerais vous poser une question là-dessus parce que si le projet aboutit, ça veut dire que l'emoji drapeau breton sera utilisable sur les 5,4 milliards de téléphones mobiles qui sont sur notre planète. Mais qui va l'utiliser à part les Bretons et les Français, hein, évidemment. Mais est-ce que c'est connu ailleurs ? Parce qu'il faut que ce soit.
Vous avez raison, il sera essentiellement utilisé par les amoureux de la Bretagne. Après, on est en fait relativement nombreux, bretons et amoureux de la Bretagne, qui sera, on l'est certain, massivement utilisé. Et puis, ça a été aussi prouvé par notamment une pétition en ligne qu'a déjà organisée donc l'association .bzh l'année dernière, qui avait pour but de justement prouver cette forte mobilisation et pétition qui avait été signée par 25 000 du coup amoureux de la Bretagne. Donc ça prouve qu'il y a quand même une vraie demande, même s'il sera beaucoup utilisé par les amoureux de la Bretagne.
Ouais. Quand on sait que le Kouign-Amann s'est bien exporté au Canada, on se dit que vous avez vos chances d'amener ce drapeau à la Silicon Valley. Ouais. Vous avez lancé, donc pour obtenir un peu d'aide, un crowdfunding, une collecte en ligne. Il reste une semaine. Vous en êtes à plus de 13 000 euros collectés. Alors le site, c'est kengo.bzh, c'est bien ça ?
Tout à fait. Donc, campagne de financement participatif qui a pour but en fait de nous aider à organiser en fait une grande opération de communication qui aura lieu début 2020. Donc, les fonds en fait qu'on va récolter lors de cette campagne de financement participatif vont servir du coup en partie en fait à l'organisation de cette campagne-là et campagne qui aura pour but de justement mobiliser bretons et amoureux de la Bretagne autour de l'émoji pour justement essayer de le faire éclore.
Merci beaucoup Loïs Philly d'être venu nous en parler.
Merci.
En tout cas, c'est un sujet très insolite. Bon courage du coup dans ce projet. Je vous rappelle le site pour vous aussi faire un don. 13 000 euros sont collectés, ils en demandent 20 000. Le site c'est kengo.bzh. Il vous reste une semaine pour participer. Et réponse donc fin avril 2020 où vous verrez peut-être éclore sur vos claviers de portable le drapeau breton. Ce serait chouette, non ?
Ce serait parfait. Pourquoi pas ?
Merci encore à Loïs Philly d'être venu nous en parler. Loïs Philly de l'association BZH.com. Tout de suite, on marche seul jusqu'à 14h. Voici Jean-Jacques Goldman sur France Bleu.
Comme un bateau dérive, sans but et sans mobile, je marche dans la
mais ça ne s'achète pas. Je m'en fous.
Je marche seul, mais avec France Bleu, c'est nettement plus chouette quand même.
Ah ouais, on est deux, plus tous les auditeurs et auditrices, on est beaucoup.
C'était Jean-Jacques Goldman à l'instant, et nous avons voyagé aujourd'hui dans Une Heure en France.
Oui.
On est allé à l'hôtel pour redécouvrir l'histoire de l'hôtellerie parisienne.
Et on a appris que pour une nuit d'hôtel, on dépensait 300 litres d'eau, d'où le besoin urgent de confectionner l'hôtel du futur.
Oui.
On est allé un peu plus bas, à la Ciotat, à la découverte d'instruments de musique uniques qui sortent des personnes sourdes du silence.
Une jeune femme de 25 ans, Cassandra Felgueras, retenez son nom, elle a créé des instruments de musique pour toutes les personnes qui sont sourdes ou malentendantes. C'est absolument sidérant.
Bravo.
Et puis sur nos téléphones portables, peut-être qu'en avril 2020, il y aura l'emoji du drapeau breton.
Et on en profite pour passer une petite annonce. On soutient une asso bretonne qui demande encore 7000 euros pour créer un émoticône, donc drapeau breton sur les smartphones. Amoureux de la Bretagne, la balle est maintenant dans votre camp.
Vous savez ce qu'on fait demain, Simon ?
Ah non, dites-moi tout.
On va boire du vin niçois, du vrai vin niçois, le vin des Coteaux de Belley. C'est la seule appellation implantée entièrement dans une grande agglomération. Rendez-vous demain dans Une Heure en France.
Avec modération toujours.
Avec modération, à demain.